Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes avec Dimitri. Bonjour mon cher Dimitri, nous nous retrouvons.
Oh, bonjour Guillaume.
Après nous être déjà salués, Emmanuel Faux, évidemment, m'adresse immédiatement sa prose. Emmanuel, d'abord le président de la République est à Beyrouth ce soir, nous en parlerons évidemment demain. Mais nous allons évoquer un phénomène que nous retrouvons déjà en France, c'est les manifs anti-Covid et ça dérape en Allemagne.
Absolument, Guillaume. Alors, au départ, ce qui s'est passé, c'est qu'une manifestation était prévue samedi dans les rues de Berlin pour protester contre les mesures qui avaient été annoncées deux jours plus tôt par le gouvernement d'Angela Merkel, comme dans beaucoup d'autres villes du monde, la généralisation du port du masque notamment. Alors, la mairie de Berlin voulait interdire ce rassemblement, non pas pour des raisons de sécurité, mais justement pour des raisons sanitaires, parce que difficile de faire respecter les distances dans une manif, on le sait. La justice a quand même donné son feu vert à l'événement, et donc aux organisateurs qui sont considérés comme des proches de l'extrême droite. Ils en sont pas membres, mais proches du fameux parti, l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne, qui fait des scores électoraux importants depuis quelques années. Et puis samedi après-midi, on remarque qu'il y a plus de 30 000 personnes dans les rues, c'est-à-dire deux fois plus de gens qu'annoncés sur les réseaux sociaux, ce qui inquiète évidemment les forces de sécurité. Et au bout de quelques minutes, la manif dérape. Des centaines de personnes se dirigent vers le Parlement, ils forcent les barrières, ils transpercent un barrage de police pour se retrouver sur les marches du célèbre hashtag, le Parlement, l'Assemblée nationale, avec la volonté de pénétrer dans le bâtiment où siègent les députés. Finalement, in extremis, les manifestants vont être empêchés d'entrer, mais le symbole est là, parce que vous savez, pour les Allemands, leur hashtag, et pour tous ceux qui connaissent un peu leur histoire de l'entre-deux-guerres, c'est évidemment le souvenir du terrible incendie de février 33. Hitler vient d'arriver au pouvoir, il est chancelier depuis quelques semaines, et le parti nazi va profiter de cet incendie du Reichstag pour restreindre les libertés, pour interdire la presse critique. On peut dire que c'est la mise entre parenthèses de la démocratie allemande. Les nazis ont les pleins pouvoirs, ils vont d'ailleurs les garder jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et cette image du Reichstag, de sa coupole en feu, eh bien, elle continue aujourd'hui de hanter les Allemands, et les manifestants d'extrême droite n'ont pas choisi cette cible au hasard. Samedi d'ailleurs, il y a eu au total 300 interpellations dans les rues.
Alors évidemment, nous n'en sommes pas encore là. Ce n'est pas l'incendie du Reichstag de 1933, mais il faut dire que l'extrême droite en Allemagne fait feu de tout bois, même si Mme Merkel connaît d'excellents résultats.
Bah oui, vous le savez, depuis plusieurs années, l'AFD notamment appelle à manifester contre l'accueil des migrants. Ils remplissent les rues, ils appellent à manifester contre la criminalité. L'appel est entendu, ils appellent à protester donc contre les mesures sanitaires. Là encore, des dizaines de milliers de personnes répondent présents. Alors bien sûr, ça reste une petite minorité agissante au regard d'un pays qui compte 80 millions d'habitants, mais l'AFD a trouvé un filon qui consiste à exploiter tous les sujets de société, et c'est ce qui permet à cette extrême droite d'occuper le paysage et de progresser assez sensiblement dans certains lands. Ce qui est plus préoccupant dans le cas de la manifestation de samedi dernier, et il y en a eu d'autres avant à Stuttgart, à Munich ou à Berlin, c'est qu'on observe un mouvement anti-santé publique qui se durcit, qui se radicalise. En fait, ce sont des manifs barrières contre les mesures barrières. Il y a une politisation de l'incivisme. Alors, on l'a vu aux États-Unis ces derniers mois, au nom de la liberté individuelle, des partisans de Donald Trump qui protestaient contre le confinement et les autres décisions de certains gouverneurs. On l'a vu au Brésil, où les complotistes de tout poil qui ne croyaient pas à la crise sanitaire invoquaient Dieu et leur Dieu sur Terre, c'est-à-dire le président Bolsonaro, lui aussi issu d'extrême droite. Et bien voilà que l'AFD en Allemagne s'empare du sujet, qui a été l'Allemagne qui a été moins touchée par la première vague de l'épidémie, mais où la rentrée s'annonce plus compliquée. Tout est bon en fait pour défier l'autorité d'Angela Merkel, qui on le sait vit ces derniers mois à la chancellerie, et même dans un pays aussi discipliné que l'Allemagne, et bien la politique de santé publique fait maintenant l'objet de manifestations. Le facteur aggravant, c'est que ces manifestations peuvent déraper dans la violence, elles peuvent atteindre les portes du Reichstag, c'est-à-dire le cœur de la démocratie, pour reprendre l'expression du président allemand Steinmeier.
Voilà, il est 7h44 sur l'antenne de Radio Classique, bienvenue à vous tous, nous sommes ravis de vous retrouver, nous sommes masqués, voici Dimitri Pavlenko.
Guillaume Durand sur Radio Classique.
Dimitri, bonjour encore une fois, c'est la troisième fois, ce matin, je me répète. Cet opéra dont on parle dans les journaux ce matin, donc on concerne Suez et Veolia, et à l'initiative c'est Veolia, quelles sont ses chances d'aboutissement?
Bah écoutez, elles sont plutôt bonnes sur le papier. Alors, Veolia-Suez, c'est quoi? C'est le secteur, c'est des noms qu'on connaît, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle le secteur des utilities, les services aux collectivités locales. Donc, c'est le traitement de l'eau, c'est la gestion, le recyclage des déchets. Et donc, ce mariage Veolia-Suez, c'est un peu l'arlésienne du capitalisme français. C'est ce qu'écrit le Figaro, c'est assez bien trouvé, à savoir que c'est une opération, ça fait des années que c'est évoqué comme une possibilité, mais bah, que ça ne se fait pas. Et il y a eu une ouverture donc cet été, à l'initiative du président d'Engie, Jean-Pierre Clamadier. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Engie dans cette histoire? Bah, en fait, tout simplement parce que vous savez, dans le capitalisme français, c'est souvent comme ça. Les groupes détiennent des parts importantes d'autres groupes, évidemment. Chacun se tient comme ça, ça permet de se protéger les uns les autres. Et en l'occurrence, Engie, donc c'est le gaz, détient 32% de Suez. Donc, si vous voulez acheter Suez, bah, il faut négocier directement avec Engie. Et cette participation d'Engie dans Suez, Jean-Pierre Clamadieu, nouveau président, dit pour une fois, la première fois, il laisse entendre bah, qu'il n'est pas ouvert à l'idée de la céder. Qu'à cela ne tienne, le président de Veolia, Antoine Frérot, saisit l'occasion. Tout de suite, il met ses équipes au travail. Et donc, il formule une offre qui a été présentée donc, hier soir. L'idée étant de racheter 29,9% du capital de Suez. C'est presque la totalité de la participation d'Engie. Pourquoi ils rachètent pas tout? Parce qu'en France, vous savez, il y a une règle. Si vous rachetez plus de 30% d'une entreprise, vous êtes obligé tout de suite de lancer une OPA sur l'ensemble du capital. Et en l'occurrence, Veolia souhaitait prendre un petit peu de temps. Alors, le contexte, il est plutôt favorable quand même, parce que c'est vrai que avec le confinement et d'une manière générale dans la société, il y a cette préoccupation pour l'environnement qui a tendance à monter. On sait que ça va être au centre aussi du plan de relance. Donc, il y aura sûrement de beaux marchés. Et ces services aux collectivités sont assez fragmentés. Antoine Frérot, il explique ce matin dans le Figaro qu'une fois qu'il aura racheté Suez, ça va être un monstre. Hein, 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires combiné quand même. Ils pèseront pas plus de 5% du marché mondial. C'est vous dire à quel point c'est très fragmenté. Et alors qu'à l'autre bout de la planète, en ce moment, en Chine, par exemple, il y a une concentration dans ce secteur-là. Donc, si vous voulez, ce que craint aussi peut-être Antoine Frérot, patron de Veolia, c'est qu'à terme, un géant chinois, comme on l'a vu par exemple dans le ferroviaire, vienne toquer à la porte en Europe et rafle tous les marchés, rachète face au petit marché. Voilà, donc c'est une opération qui vraiment a du sens. En France, il y a juste un petit souci, c'est que il risque au niveau des collectivités locales, bah, on aime bien avoir deux interlocuteurs pour les mettre en concurrence. Là, il n'y en aurait plus qu'un. Le Premier ministre Jean Castex, il est très attaché à la défense des collectivités locales, donc peut-être y aura-t-il des cessions à faire pour complaire aux autorités de la concurrence. Et au pouvoir politique a son mot à dire. Parce que qui est actionnaire d'Engie, cette fois, eh bien c'est l'État français. Voilà.
7h47, donc les spécialistes sur l'antenne de Radio Classique, nous sommes ravis de travailler pour vous. Voici le journal imprévisible qui revient, qui est déjà revenu donc la semaine dernière avec Renaud Blanc, qui va s'intéresser, puisque c'est la rentrée, à tous ceux qui sont devenus célèbres, mais qui au départ étaient professeurs. Rendre hommage aux profs, c'est une bonne chose. 7h40.